enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Acte des apôtres, le premier chapitre, acte 1. Pour le message de début d'année et pour une série de messages qui commence, intitulé « Le rêve de Dieu ». Je suis habituellement assez enthousiaste au début d'année, mais je dois vous avouer, et je vais essayer de me retenir, mais je dois vous avouer que je suis particulièrement, je ne me souviens pas d'un moment où j'ai été plus excité et enthousiaste face à une série de messages et face à une année qui s'ouvre devant nous. Imaginez un instant tout ce qui peut prendre place dans la prochaine année, ces prochains 12 mois, tout ce que Dieu peut faire à travers nous tous, tout ce que Dieu peut faire dans nos vies, au milieu de nous. À chaque fois qu'il y a une année qui s'ouvre, moi je m'arrête et je frotte les mains d'anticipation à tout ce que Dieu peut accomplir. Les merveilles de Dieu qui s'ouvrent, la miséricorde de Dieu qui s'ouvre, pleine d'opportunités, pleine de possibilités. Imaginez-vous à travers nous les âmes qui peuvent être sauvées en 2007, les familles qui peuvent être changées, les cœurs qui peuvent être restaurés, les jeunes qui peuvent venir à Dieu, les œuvres humanitaires qui peuvent être faites au nom du Seigneur. Écoutez, je sais que vous êtes en train de digérer encore la tourtière des fêtes, mais dans mes notes, c'était marqué que vous diriez « Amen » sans que je vous le demande. C'était marqué ici. Les âmes qui vont être sauvées, les vies qui peuvent être changées. Donnez un vrai « Amen » en digérant le pâté. Et nous voulons vous inviter à entrer avec nous dans l'année 2007 dans la présence de Dieu, avec une série de messages qui va s'intituler « Le rêve de Dieu », où chaque personne va être invitée et appelée et va être défiée et va aussi être formée et équipée afin de s'emparer du rêve de Dieu pour chaque personne, le rêve que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et comme à chaque année, nous croyons à travers toute l'année, 12 mois par année, que sa maison, que l'Église doit être une maison de prière et des réunions de prière, douzaine de réunions de prière à chaque semaine à travers toute l'année, des centaines de personnes en prière à travers toute l'année. Mais nous croyons qu'à chaque début d'année, nous devons mettre une emphase particulière pour commencer, avant tout le reste, commencer l'année dans la présence de Dieu. Et nous allons avoir un temps de jeûne et de prière. Et dans les dernières années, nous avons eu, en 2004, on a débuté l'année avec un 21 jours de jeûne et de prière. Et en 2005, un 40 jours où certaines personnes prenaient différentes portions de temps. Mais j'avais senti cette direction de Dieu de jeûner 21 jours en 2004, 40 jours, les 40 premiers jours de l'année en 2005, 21 jours en 2006. Et j'ai vraiment senti du Seigneur cette direction de revenir à un 40 jours de jeûne pour l'année 2007. Mais il y a toujours eu ce désir. Je crois que c'est quelque chose de tellement puissant, tellement extraordinaire, tellement miraculeux, tellement surnaturel, une dimension tellement extraordinaire lorsqu'on entre dans le jeûne et la prière. Et mon regret a toujours été de ne pas pouvoir amener plus de gens avec nous. Je comprends très bien qu'on peut pas aller si on n'a pas jeûné dans notre vie, on n'a pas développé cette habitude, on n'a pas développé cet aspect-là de notre relation avec Dieu. On peut pas aller à 21 jours ou à 40 jours de jeûne et de prière. Mais j'avais ça à cœur aussi que cette grâce, cet état de grâce et de bénédiction qu'on vit en début d'année puisse se répandre sur toute l'année. Alors j'ai reçu dans mon cœur cette pensée de faire un 40 jours de jeûne et de prière en 2007 différent et qui va se faire pendant toute l'année. Et je veux, il y en a qui sont pas sûrs encore comment, mais je vais vous demander de dire amen même avant de savoir la fin, juste de dire amen par la foi. J'aimerais vous dire que des centaines d'entre vous vont être capables de jeûner 40 jours en 2007. Dites amen. Dites à la personne près de vous, je te regarde, je sais que tu es capable. Dites ça à la personne près de vous. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va jeûner un 4 jours dans le mois de janvier et un 3 jours par mois pendant toute l'année. Moi, je vais débuter chaque mois de l'année par un 3 jours de jeûne. Les 3 premiers jours de chaque mois à partir de février jusqu'à janvier prochain, on va les débuter dans le jeûne et ça va toujours être annoncé dans le bulletin. Alors, vous allez pouvoir vous joindre à nous. Il va y avoir des besoins spécifiques et des visions d'unité spécifiques pour lesquelles des personnes partout sur la rive sud pendant 3 jours vont se joindre à nous pour jeûner. Et si vous jeûnez avec nous 4 jours, ça peut être une journée par semaine pendant le mois de janvier. C'est pour ceux qui commencent, on veut que le plus de gens possible se joignent. Sans légalisme, c'est pas une loi. Il y a des gens pour des raisons de santé qui peuvent pas jeûner par les présent à votre médecin et tout ça. Vous pouvez prendre du jus pendant la journée. Vous pouvez faire des jeûnes partiels, débuter, développer cette dimension-là. Mais la possibilité que vous jeûniez 4 jours en janvier et 3 jours à chaque mois de l'année, les 12 mois, jusqu'à janvier prochain, et tout ça ensemble, au mois de janvier 2008, il y aurait des centaines d'entre nous qui auraient fait un 40 jours de jeûne et de prière et s'emparer du rêve de Dieu pour chacune de nos vies. Pendant ce temps-là, dans le mois de janvier et février, il va y avoir 7 réunions de prédication et de puissance, des dimanches soirs, des mercredis soirs, de prières passionnées sur l'onction du Saint-Esprit, débutant dimanche soir prochain, le 14 février. Il n'y a pas de réunion ce soir, mais commençant dimanche soir prochain, réunion de puissance et de prière et d'onction et de prédication. Il va y avoir 15 réunions. Le pasteur de la prière, pasteur Antoine Amicot et toute son équipe vont présenter et offrir et vous accueillir et vous diriger et vous inspirer dans une 15aine de réunions de prière par semaine pendant le mois de janvier. Il va y avoir des veilles de prière entre maintenant et la fin du mois de février, des nuits de prière. Et comme à chaque année en début d'année, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années et que Dieu a multiplié, toutes les prédications de cette série Le rêve de Dieu vont être mises sur Internet gratuitement. Et ça permet à des gens, l'année passée, imaginez, il y a des chrétiens de 31 pays qui nous ont écrit pour nous dire, pays francophones, à travers des pays africains, la Suisse, la France, la Belgique, l'Afrique, aussi loin que Tahiti, des francophones qui sont en Espagne, qui sont en Israël, qui nous envoient des emails et qui disent, nous prions avec vous, nous suivons les réunions de prière, nous suivons les messages, nous prions avec vous, nous allons faire la plus grande réunion de prière de la francophonie par Internet. Et nous allons entrer ensemble dans une série de messages qui s'intitule « Le rêve de Dieu », d'avoir la vision de Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, ce n'est pas pour une élite que le désir du Seigneur, c'est excessivement important, c'est que chaque croyant puisse entrer en 2007 avec une vision, avec une réalisation du rêve de Dieu pour vous. J'aimerais que vous sachiez que Dieu a un rêve pour vous, qu'il y a une vision, il a une volonté, il a un appel. Il y a des choses, il y a quelque chose qui peut être accompli sur cette terre seulement par vous. Il y a des choses que vous faites qui procurent une joie au cœur de Dieu que personne d'autre ne peut faire. Il y a une destinée, il y a un livre. Le psalmiste dit, les pages du livre de ma vie sont éternellement devant toi, Éternel. Il y a un livre avec la page 2007 de bénédiction et d'action pour Dieu. Il y a des choses que seulement vous pouvez faire. Que pas un seul homme de Dieu ou femme de Dieu peut accomplir. Le plus grand des prédicateurs que vous admirez ne peut pas accomplir ce que vous êtes appelé à faire. Et c'est le désir de Dieu d'amener chaque personne dans le rêve. La pensée hallucinante, on commence la semaine prochaine, la pensée incroyable que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous et que nous pouvons le découvrir et nous en emparer. C'est tellement quelque chose d'important à son cœur que dans les Proverbes au chapitre 29, nous lisons cet avertissement divin pour chacun d'entre nous en ce début 2007. La parole de Dieu nous dit, quand il n'y a pas de rêve, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple est sans frein, que nous pouvons vivre toutes sortes de choses, toutes sortes d'épreuves, mais lorsque nous perdons un espoir, lorsque nous perdons un sens de vision, lorsque nous sommes dans l'Église, mais je n'ai plus un sens que Dieu peut faire de grandes choses, il y a un sens à tout ça, il y a un plan pour ma vie, il y a une destinée pour moi, il y a une vision pour moi, le peuple périt, le peuple détruit, le peuple, il y a une autre version qui dit, perd tous ses freins, le peuple est ouvert à l'ennemi, se donne à toutes sortes de choses qui peuvent le détruire. Il y a cet avertissement de Dieu que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand vous regardez dans la parole de Dieu et que vous voyez dans l'Ancien Testament en particulier qui est écrit en hébreu, le mot vision, je vais vous faire découvrir un mot qu'on va parler beaucoup dans les prochaines semaines. Vous allez trouver dans les Écritures le mot chazon. Et c'est un mot, le mot hébreu pour vision, qui parle de vision, du rêve, la révélation de Dieu, les possibilités prophétiques ou la vision de Dieu. Le mot chazon. Mais dans l'hébreu, il n'y a pas, on l'écrit chazon, mais il n'y a pas le son CH, ch, comme dans château ou chaussure. Il n'y a pas de CH dans l'hébreu. La façon réelle de prononcer chazon, ça vient de la gorge salariale, c'est chazon. J'aimerais que vous l'essayiez, mais en regardant en avant pour rien envoyer sur les personnes à gauche et à droite. Alors, ce qu'on peut regarder en avant et essayer tout le monde ensemble, dites avec moi chazon. Et maintenant, risquez-vous, dites à la personne à côté de vous, Dieu a un chazon pour toi. Dites ça à la personne près de vous. C'est merveilleux dans le mois de janvier de microbes et tout ça de faire des exercices comme ça à l'église. Souvenez-vous bien du mot. C'est pas calzone, les Italiens. C'est pas calzone. C'est pas cassonas. J'ai appris que cassonas, ça voulait dire sous-vêtement en espagnol. C'est pas cassonas. C'est pas calzone. C'est razon. C'est la vision de Dieu. C'est le fait qu'au-dessus de chaque personne qui sont ici ce matin, qui vont entendre ce message par le truchement de la radio ou de l'Internet, qu'au-dessus de vos vies, il y a une destinée de Dieu, un rêve de Dieu. Il y a un plan de Dieu, une vision, une intention, un désir de Dieu. Il y a tout ce que Dieu a préparé pour chaque être humain qui est magnifique et différent et puissant. Et ce que nous allons vivre ensemble et découvrir en ce début d'année 2007, c'est comment identifier, trouver, et établir le rêve de Dieu. Des gens qui sont ici, je ne sais pas c'est quoi la vision de Dieu pour moi. Je ne sais pas c'est quoi mon appel. Je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu pour moi. Je ne sais pas c'est quoi cette œuvre que Dieu m'a appelée à, ou je le sais partiellement. Nous allons découvrir ensemble comment trouver, comment découvrir, établir, identifier le rêve de Dieu. On va regarder ensemble dans les prochaines semaines comment retrouver, reprendre, retrouver, recapturer la vision de Dieu lorsqu'elle a été perdue. Comment la reprendre des griffes de l'ennemi qui vous l'a volée. Peut-être que l'ennemi a volé, les circonstances de la vie et les épreuves vous ont volé la vision de Dieu dans votre vie, ou dans la vie de vos enfants, ou dans la vie de votre service, votre ministère, votre cœur pour Dieu. Eh bien, nous allons apprendre ensemble comment combattre pour la vision, comment la reprendre de l'ennemi, comment nourrir, développer et multiplier le rêve de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves qui ne s'accomplissent pas. Il y a beaucoup de gens dont les rêves demeurent inachevés. Il y a beaucoup de gens au potentiel extraordinaire. Et les années passent, et une année devient une autre. Et c'est comme si le rêve s'approche d'eux, à chaque fois qu'ils viennent s'en emparer, ils leur glissent entre les doigts. Nous allons regarder à travers la parole de Dieu. Et personne n'est meilleur que le dream giver. Personne n'est meilleur que celui qui donne les rêves. Il nous a donné le manuel d'instruction pour non seulement connaître ton rêve, reprendre ton rêve, bâtir ton rêve, mais aussi comment que ça soit pas seulement un rêve dans ta tête et dans ton cœur et dans ton espérance, mais afin que le rêve, tu puisses vraiment l'accomplir, le développer et le rendre réalité. Vous risquez, amen. On va regarder et découvrir ensemble comment nourrir, développer, multiplier le rêve. Comment comprendre et vivre et vaincre les délais dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Moi, j'ai un rêve, mais il y a un délai. Ça tarde. C'est au-delà de ce que je pensais. C'est plus long que je pensais. J'ai besoin d'apprendre comment vivre avec les délais dans l'accomplissement du rêve. Comment abattre les obstacles et ennemis du rêve de Dieu. Il y a des tueurs de rêves. Il y a une vision, une destinée, un rêve de Dieu sur chacun d'entre vous. Et il y a des choses qui viennent, des trappes, des pièges, des tueurs de rêves qui sont communs à tous les hommes et qui sont présents pour venir tuer, avorter le rêve de Dieu. Et nous allons identifier et apprendre comment abattre les obstacles et abattre les tueurs de rêves. Et nous allons aussi découvrir comment être remplis de l'onction et de la puissance surnaturelle pour le rêve de Dieu. Je vais vous inviter à vous préparer avec nous, à pas être spectateur passif. Nous, on va jeûner, on va prier, on va se préparer pour que semaine après semaine, janvier, février, mars, chaque message soit percutant, chaque message touche votre cœur, chaque message vous amène plus proche du rêve de Dieu. Mais je vous propose et je vous invite de tout mon cœur à pas être un spectateur, à pas être quelqu'un qui dit « Ok, vas-y pasteur, jeûne, prie, pleure pour moi, prépare-toi puis je verrai si je vais embarquer ou non. » Mais que vous puissiez dire, moi aussi, je vais me préparer. Moi, je veux participer. Je vais me rouler les manches spirituellement pour m'emparer, moi aussi, du rêve de Dieu. Je vais vous inviter à jeûner avec nous, à prendre un temps, un repas, une soirée, que dans le mois de janvier, février, pendant qu'on va annoncer les temps de jeûne et prière, vous disiez, moi, ce soir, au lieu de rester à la maison, écouter la télé, je m'en vais à l'église, il y a une réunion de prière. Ou je reste chez nous, mais je ferme la télé, je vais aller dans la parole de Dieu, je vais aller dans la présence de Dieu. Jeûner, prier avec nous. Ne manquez pas un dimanche. Participez à des réunions de prière. Il va y en avoir de tous les genres en janvier, février. Pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, pour les célibataires, pour la jeunesse, pour tout le monde ensemble. Que vous mettiez du temps à part pour dire, je viens spécifiquement pour rencontrer Dieu. J'aimerais vous inviter tout le monde à lire dans la Bible, commençant demain, lire dans les prochaines semaines la vie de Joseph dans la Bible. Genèse 37 à 50, parce que la série de messages sur le rêve de Dieu va être basée sur la vie extraordinaire du personnage de Joseph. Alors, lisons-la tous ensemble. On va tous la lire et de semaine en semaine, on va aller de chapitre en chapitre. Alors, je vous invite à lire la vie de Joseph dans Genèse 37 à 50 et à préparer vos cœurs pour le rêve de Dieu. Car quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision, de rêve pour la vie, des milliers se suicident. C'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai observées. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont avec nous ce matin pour les premières fois. Une des choses les plus extraordinaires que j'ai observées, alors que j'ai été pendant des années pasteur de jeunesse, que j'ai donné des conférences devant des milliers et milliers de jeunes, Une des choses particulières que j'ai observées dans cette province de Québec, qui a le plus haut taux de suicide adolescent au monde, où des jeunes s'enlèvent la vie à chaque jour, c'est que c'est excessivement, extraordinairement rare qu'un jeune homme ou une jeune fille qui est chrétien et qui connaît Dieu et qui aime Dieu s'enlève la vie. C'est excessivement rare parce que lorsque tu es chrétien et que tu connais Dieu, tu as un rêve pour ta vie. Et celui qui a un rêve pour sa vie ne veut pas y mettre fin. Quelles que soient les épreuves qu'il traverse, c'est pas parce que les jeunes chrétiens n'ont pas d'épreuves et ne vivent pas des choses terribles, mais il y a quelque chose de plus fort que les épreuves en eux. C'est ce rêve de Dieu que je vis pas pour moi-même, je suis pas un accident. Dieu a un rêve, il y a un plan pour moi et ma vie vaut la peine d'être vécue. S'il n'y a pas de rêve de Dieu dans votre mariage, autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, quand il n'y a pas de rêve pour le couple, 50 % des couples se divorcent. Encore une fois, je veux dire ceci avec énormément, pas de fierté dans le sens d'orgueil, mais il y a un couple sur deux dans notre société qui se termine en divorce. Puis si vous êtes ici, vous avez vécu un divorce, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un espoir, il y a une restauration, il y a une vie après le divorce pour chaque personne qui est ici. Mais j'aimerais quand même dire ceci avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu, que dans la société dans laquelle nous vivons, un mariage sur deux se termine en divorce. Mais si on regarde aux 14 ans de l'Église Nouvelle Vie ici, les dizaines et centaines de mariages que nous avons faits, la meilleure façon, le plus précis qu'on peut regarder les statistiques de l'Église, c'est 93 et 94 % des mariages de l'Église qui restent ensemble par la grâce de Dieu. Et moi je veux que ça devienne 100 %. Nous ne voulons pas en perdre un seul, mais il y a une différence. Lorsque tu es ici ce matin, quel que soit ce que ton couple peut traverser et que tu as une vision du rêve de Dieu pour ton mariage, tu peux pardonner, tu peux bâtir, tu peux changer et tu peux continuer. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait applaudir le rêve de Dieu pour chaque personne qui sont ici. Quand il n'y a pas de rêve pour la famille, les enfants sont souvent négligés, la récolte est amère. Quand il n'y a pas de rêve spirituel, la passion s'éteint. Quand il n'y a pas de rêve de pureté, l'immoralité nous souille et nous détruit. C'est exactement ce que le proverbe dit. Le proverbe dit, là où il n'y a pas de vision ou de rêve, de chazon, le peuple est sans frein. Le peuple, il n'y a rien qui les retient. Et une des plus grandes visions que vous pourriez avoir, il y a beaucoup, beaucoup de messages et de séries sur la vision. Je vais être un grand prédicateur, je vais faire des grandes choses, je vais prospérer, je vais devenir un millionnaire, je vais faire ci, je vais faire ça, ma carrière, mon travail, mon ministère. Laissez-moi vous proposer avec douceur, mais de tout mon cœur, une des plus grandes visions que nous avons besoin en 2007. C'est chaque chrétien qui est ici, chaque homme ou femme qui dit, Seigneur, remplis-moi d'une vision de pureté, d'une vision du trône de Dieu, du jugement de Dieu, d'une vision de tout ce que l'impureté détruit, une vision de tout ce que l'impureté détruit en nous, tout ce que l'impureté nous vole, tout ce que l'impureté souille, la honte que ça amène, la dépression, la destruction, l'héritage terrible que ça donne. Tout ce que l'impureté amène sur cette terre, mais dans l'éternité, tout ce que je peux perdre devant Dieu. Seigneur, donne-moi une vision. Donne-moi une vision de pureté en 2007. Qu'une des plus grandes choses que je vais faire en 2007, c'est que vous allez faire et que je vais faire, c'est-à-dire par la grâce de Dieu qui habite en moi, je vais être pur dans ma sexualité, je vais être pur dans mes yeux, dans mes pensées, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes motifs. Dites amen, n'importe quand ça vous tente. Nous allons avoir une vision en 2007 d'être des hommes et des femmes qui sont droits, qui sont purs, qui sont transparents et qui sont honnêtes devant Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Quand il n'y a pas une vision de pureté, le peuple se souille. Quand il n'y a pas une vision, un rêve d'épanouissement et d'accomplissement en Dieu, l'étourdissement, la futilité et la dissipation règnent. Ce n'est pas un sens que ma vie doit compter, que j'ai des choses à faire pour Dieu, que mon travail, ma famille, mes enfants, ce que je fais, mes études, a un sens. Je vais accomplir des choses pour Dieu. Les gens s'étourdissent à l'infini dans des choses inutiles et vaines, essayent de s'étourdir et de faire taire, d'engourdir le mal qui est en eux ou le vide qui est en eux. Quand il n'y a pas de rêve de pardon et de réconciliation, l'amertume nous paralyse et nous endurcit. Nous allons le voir dans la vie de Joseph. Mais je veux semer la semence dans votre cœur. Dans les prochaines semaines, je vous dis pas quel dimanche, mais dans les prochaines semaines, il va y avoir un dimanche du pardon qui va prendre place ici à l'Église du Bellevue. J'aimerais vous dire que lorsque la vision disparaît, lorsque le rêve de réconciliation, il y a des gens qui vous ont blessé, des gens qui vous ont meurtri, des gens qui vous ont, en ce moment, il y a un état difficile dans votre cœur envers quelqu'un, nous ne devons jamais, comme chrétiens, perdre la vision d'un miracle de réconciliation. Sinon, je m'endurcis, sinon, je m'éteins, sinon, je deviens amer, je deviens cynique. Et nous allons voir dans la vie de Joseph comment, c'est à travers le pardon miraculeux et impossible sans Dieu, mais rendu possible par l'Esprit de Dieu, c'est à travers le pardon que les plus grands rêves se réalisent. Nous allons voir ensemble dans cette série de messages, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de rêve, d'exploit pour Dieu, l'Église devient misérable. Elle devient mesquine, elle devient minable. Quand il n'y a pas de rêve pour ceux qui souffrent, le peuple de Dieu devient égocentrique, froid, indifférent. Quand il n'y a pas de rêve pour la personne, la puissance et la plénitude de l'esprit, le peuple s'épuise, le peuple se décourage, se condamne et se limite. Je dirais de cette façon, si vous n'avez pas une vision de tout ce que le Saint-Esprit peut faire en vous, l'Église devient plate. La vie chrétienne devient morne et ennuyeuse, une série de rituels, une série de choses, d'engagements que je ne suis pas capable de tenir et de rêves qui s'éloignent de moi. Mais si vous avez une vision qu'à chaque fois que je viens à l'Église, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, à chaque fois que je parle à Dieu, je peux être en communion avec l'Esprit Saint, avec le Saint-Esprit lui-même et qu'en 2007, Dieu a toutes sortes d'expériences extraordinaires qui veulent me faire vivre en lui. Alors, Seigneur, la personne, la puissance de l'Esprit devient mon trésor pour l'année 2007. Quand il n'y a pas de vision ou de rêve pour les âmes, nous nous privons du plus grand de tous les miracles et nous piétinons le rêve ultime de Dieu. La série de messages qui commence dans les prochaines semaines va être le rêve de Dieu pour vous. Tout ce que Dieu veut vous donner, vous procurer, tout ce qu'il veut accomplir en vous, tout ce qu'il veut vous, ce avec quoi il veut vous combler de ses bénédictions. Mais en introduction de ce message, je veux proposer non seulement le rêve de Dieu pour nous, mais le rêve de Dieu par nous. Je pose une question qu'on ne se pose pas souvent. On parle souvent de « Seigneur, es-tu là pour accomplir mes rêves? Qu'est-ce que tu vas me donner? J'ai des rêves. Est-ce que tu vas m'aider à accomplir mes rêves? Est-ce que Dieu va m'aider à accomplir mes rêves? Et c'est quoi ton rêve pour moi? » Mais la question que je vais vous poser ce matin, ce début d'année, c'est combien d'entre nous sont désireux d'accomplir son rêve? Le rêve de Dieu. Ce que lui aime, ce que lui procure plaisir, ce que Dieu voudrait accomplir à travers nous. Quel est le rêve de Dieu? Quelle est l'essence même, le désir suprême de Dieu? Qu'est-ce que Dieu désire le plus de nous, son peuple? Qu'est-ce qu'il veut qu'on accomplisse le plus ensemble pour lui? Quel est le rêve, non seulement le rêve de Dieu pour nous, mais le rêve de Dieu par nous? Quel est l'essentiel? En ce début d'année, commencement, on va être dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 ce matin et dimanche matin prochain. Quel est le rêve, l'essence du rêve de Dieu pour nous? Il y a un coach de football américain, le plus populaire, le plus connu, s'appelle Vince Lombardi. C'est la saison du football en ce moment, ceux qui suivent ça, le football américain. Et c'est lui qui était celui qui a eu la meilleure fiche. Et sa spécialité, il est devenu une légende parce qu'il prenait les pires équipes. Il l'a fait avec les Giants, puis il l'a fait avec les Packers. Il prenait la pire équipe. Et la première fois qu'il l'a fait avec les Giants, l'équipe avait battu le record du plus grand nombre de défaites l'année d'avant. C'était la risée de la ligue. Et lui arrivait et prenait la pire équipe. Et il en faisait une équipe championne. Avec les Packers, il les a amenés à 5 championnats nationaux, 2 Super Bowls. Et à chaque année, il défiait les gens, il défiait toutes les statistiques possibles. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer comment ils pouvaient prendre une gang comme ça qui avait eu tellement de difficultés et en faire une équipe championne. Et la chose la plus célèbre à propos de Vince Lombardi, c'était la première phrase qu'il disait lorsqu'il prenait une équipe. Vince Lombardi arrivait à une équipe, il l'a fait avec les Giants, c'est devenu la légende, parce qu'il est arrivé à l'équipe qui avait perdu des vétérans, des nouveaux, mais ils étaient la honte de la ligue, ils avaient tout perdu, et Vince Lombardi est arrivé, puis il a dit au gars, vas-y Jocelyn. Jocelyn a pratiqué toute la semaine pour être capable de faire ça. Puis il s'est fait un hernie dans la première réunion, alors on va. Moi, j'avais quelque chose de plus que ça, j'avais à cœur, parce que vous savez, on a un homme de la CFL, on a un homme qui est un joueur de football professionnel qui vient ici à l'église, il joue pour les Stampeders de Calgary, puis moi, j'avais dans la tête, Justin va me faire la passe, puis lui, il va se lever dans la salle, puis je vais lui faire une passe partout. Il est-tu là ce matin? Je vais y envoyer la passe, puis le staff me dit, fais pas ça, ça a l'air beau dans ton rêve, mais tu vas manquer ta passe, tu vas envoyer ça dans la face d'une grand-maman dans la troisième rangée, puis ça va être un moment. Il est-tu là? He's right there. Here you go, baby! Bring it back! All right. Woo! En ce qui me concerne, je peux m'en aller à la maison. Good night. Le staff est là. J'ai besoin du ballon, par exemple. Bon. Quand vous regardez notre frère, vous comprenez pourquoi maintenant on ne passera pas à l'étape des plaquages. On va laisser faire. Bienvenue. Welcome. We're glad to have you here. Vince Lombardi, la première fois, est arrivé dans son équipe. Et le football est un sport très sophistiqué. C'est un sport extrêmement technique où il y a des stratégies hallucinantes. Probablement le sport le plus complexe. Et Vince Lombardi est arrivé la première fois devant ses joueurs. C'est une gang de vétérans qui venaient d'être la honte de la ligue. Et les jeunes qui étaient là. Qu'est-ce qui va nous sortir? Ça va être quoi sa stratégie? Ça va être quoi sa technique? Ça va être quoi l'innovation? Qu'est-ce qu'il va faire pour prendre cette équipe-là pour faire quelque chose avec eux? Puis Vince Lombardi est arrivé avec un ballon de football. Puis il a fait ça plusieurs fois avec des équipes qu'il a restaurées et qu'il a relevées. Puis il a dit, « Gentlemen, this is a football. Messieurs, ceci est un ballon. » Les gars se regardaient tous. Son point était, on va retourner à la base. Il est possible pour vous, à travers toutes vos techniques et toutes les innovations, de perdre l'essence même de ce que vous pouvez faire. Et le football, c'est un sport. Mais lorsque nous parlons de choses éternelles, j'aimerais vous proposer que Dieu vient et dit, « Voulez-vous savoir mon rêve? » À une église moderne qui cherche des techniques, qui cherche une nouvelle affaire, un nouveau message, une nouvelle innovation, à une église moderne qui peut avoir perdu l'essence même de ce que Dieu rêve vraiment. Si pendant une seconde ce matin, le ciel s'ouvrait et que le cœur de Dieu commençait à être vu et compris de chacun d'entre nous, Dieu dirait, voici. Vince se dit, voici, gentlemen, this is a football. Voici le ballon, commence ici. Et Dieu dirait à chaque personne ici, Église du Seigneur, voici mon rêve. Voici ma vision. Je ne suis pas désireux qu'aucun se perde. Et je veux que tous viennent à la connaissance de qui je suis. Le rêve suprême que j'ai pour vous en 2007, c'est que vous gagniez des hommes et des femmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Que vous communiquiez votre voix. Ce qui procure le plus de plaisir à mon cœur, ce qui est mon rêve, c'est que pas un seul ne se perde. Que vous alliez par toutes les nations pour faire des disciples. Et lorsqu'on regarde dans les évangiles à travers, il y a des centaines de versets qui soulignent ceci. Mais il y en a, j'en regarde quelques-uns avec vous, un après l'autre, simplement pour que le rêve de Dieu est mon défi est très simple ce matin, c'est la possibilité que chaque croyant puisse s'être investi d'une mission en 2007 et de dire, en 2007, je vais gagner quelqu'un à Jésus-Christ. Je vais gagner mon fils, ma fille, je vais gagner mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Je vais gagner un rétrograde qui s'est éloigné de Dieu. Je vais gagner un ami à l'école. Je vais gagner quelqu'un de ma famille. En 2007, je veux procurer du plaisir au cœur de Dieu et je veux être ramené au plus grand de tous les miracles. Ce qui satisfait un chrétien plus que n'importe quoi d'autre, le plaisir, la joie qui est éternelle de dire, moi j'ai parlé, moi j'ai communiqué, moi j'ai aimé, moi j'ai prié et moi j'ai accompli le rêve de Dieu et j'ai amené une personne à la connaissance du Seigneur. Quelqu'un devrait dire amen. Vous pouvez imaginer le potentiel qui pourrait prendre place en 2007 si les 3500 personnes de l'Église Nouvelle Vie prenaient cette vision à cœur personnellement et disaient, moi, en 2007, on est au mois de janvier et je vais entrer dans ce message. Je vais voir tout ce que Dieu a pour moi comme rêve. Mais moi, je veux rencontrer le rêve de Dieu. Et par la grâce de Dieu, à la fin de l'année, au mois de janvier 2008, lorsque le pasteur va prêcher, il y a quelqu'un qui va être à côté de moi ou il y a quelqu'un qui va être dans l'église qui n'était pas là l'année d'avant et c'est moi qui vais l'avoir amené au Seigneur. Quelqu'un devrait dire amen. Car le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. À travers tout l'Évangile, Luc chapitre 4, dans le jour, alors, dès que le jour parut, très tôt le matin, il sortit et alla dans un lieu désert, et la foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, ils voulaient le garder pour eux, afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. 2000 ans plus tard, il y a tout un monde chrétien qui sont pareils comme ces hommes de Luc chapitre 4. Ce peuple qui avait été touché par Jésus, il est venu parmi eux, il les a touchés, il leur a fait du bien. Puis là, on s'accrochait à lui. Puis, Seigneur, on veut te retenir, on veut te garder pour nous. Et le paradoxe de Dieu, l'ampleur de Dieu, c'est qu'à chaque dimanche, il veut nous faire du bien à nous. Nos besoins comptent pour lui. Notre douleur compte pour lui. Mais alors que l'Église chrétienne veut le garder pour elle-même, on est bien, fais-nous du bien à l'intérieur. Le Seigneur dit, il faut que j'aille accomplir à travers vous ce pourquoi je suis venu. Je suis pas venu seulement pour les 3500 personnes à l'intérieur de l'Église. Je suis venu pour les milliers à l'extérieur qui ont besoin de moi. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour trouver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien aimé, laissez-le remplir votre cœur avec un peu de son cœur à lui. Il dit, moi je suis venu, Dieu ne regarde pas rien comme nous on regarde. Nous on va dans un centre d'achat, on voit une foule rapidement, il faut que je fasse mon chemin, il y a une ligne au restaurant, il y a une ligne au cinéma, il y a une foule qui est là, il faut que je fasse mon chemin à travers la foule. Et on voit une masse d'humanité. Le Seigneur regarde la même foule et il voit des hommes et des femmes qui sont perdus sans lui, qui ont besoin de lui. Et sans ce cœur de Dieu, sans ce rêve de Dieu présent en nous, on vit pour nous-mêmes, on vit égoïstement, de façon égocentrique. Mais je dois vous demander de lui permettre de toucher votre cœur et dire, Seigneur, est-ce que quelque chose qui est perdu autour de moi? Il y a quelqu'un qui est perdu. Je veux vous choquer. Je veux provoquer chaque parent qui est ici à ne pas accepter que votre fils ou votre fille soit loin des choses de Dieu. Ne pas l'accepter. Je ne vous parle pas de vous condamner, de vous écraser. Je vous parle cependant de ne pas l'accepter, de ne pas faire la paix avec ça. De ne pas faire la paix, mais coudonc, c'est pas une mauvaise personne, dans le fond, il fait ce qu'il peut, mais il ne suit pas Dieu, mais coudonc, il y a d'autres. Non. Que comme le pharaon des temps anciens a dit, a fait cette offre ignoble au peuple d'Israël, puis a dit, venez, vous êtes captifs, je vais vous laisser sortir de la captivité, je vous laisse entrer dans la terre promise, mais je vais garder vos enfants. Et que le peuple a dit, non, Moïse a dit, non, laisse aller mon peuple. Nous disons à l'ennemi de nos âmes, nous sommes reconnaissants à Dieu, on va entrer dans le rêve de Dieu, mais j'y vais pas seul. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère vont venir avec moi. Je parle d'un cœur qui dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aller vers ce qui est perdu. Aide-moi à être passionné pour ce qui est perdu, à prendre ma place. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Notre relation avec le monde qui ne connaît pas le Seigneur, on ne sommes pas là pour condamner le monde, juger le monde, débattre avec le monde, isoler, s'isoler du monde, des méchants à l'extérieur. Non, nous sommes là. Il n'a pas été appelé pour juger ce monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le voleur vienne, lui, pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Moi, ça m'a touché parce que l'apôtre Paul n'a jamais perdu cette vision-là. Il n'a jamais perdu la vision que lui avait déjà été quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Moi, là, c'est une chose certaine, c'est rare que vous avez cette expression-là, seulement quelques fois dans le Nouveau Testament. Toute la parole du Nouveau Testament, elle est certaine et entièrement digne d'être reçue. Mais lorsque le Saint-Esprit lui donne cette emphase particulière à l'apôtre Paul, lorsqu'il souligne quelque chose d'éternité, de grande ampleur et gravité. Il dit, c'est une parole certaine, oubliez, ne la manquez pas, ne l'oubliez jamais. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est que le Fils de l'homme est venu pour chercher, pour sauver ce qui était perdu. Les pécheurs, dont moi je suis le premier. Et moi j'ai souvent pleuré devant Dieu en disant, Seigneur, comme c'est hallucinant et c'est laid que des personnes qui étaient des pécheurs loin de Dieu et qui ont été ramenés, rachetés, restaurés, rebâtis, nous pouvons si facilement, nous le pire, le premier des pécheurs, nous pouvons si facilement vouloir s'approprier la vie chrétienne pour nous-mêmes et ne pas avoir le courage de traverser notre orgueil, je parle pour moi, l'orgueil de ce que les gens vont penser de moi, la moquerie peut-être, le rejet de certains, oser simplement nous lever et dire, Seigneur, moi, j'étais sans toi, je te connaissais pas, j'étais perdu, j'étais rien, j'avais une vie misérable sans toi. Combien d'entre vous, ce matin, vous dites, Seigneur, j'étais le premier des pécheurs, j'étais le pire, mais ta grâce me fait découvrir une vie extraordinaire, un espoir, une vie, une compréhension, une paix, une grâce, une puissance, une vie que j'aurais jamais eue autrement. Applaudissez Dieu pour sa bonté envers vous. Et l'apôtre Paul n'a jamais oublié le rêve de Dieu. Je réponds, lorsqu'il raconte son témoignage, j'invite les musiciens à s'approcher, j'arrive à la fin du message. Lorsqu'il raconte son témoignage, j'ai répondu, il raconte à un roi Agrippa, c'est quoi qui lui est arrivé, son témoignage de vie. Puis il raconte qu'il était sur la route de Damas et que Dieu l'a interpellé, qu'il arrivait face à face avec le Seigneur Jésus. Puis j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Je ne connaissais pas Dieu. Et le Seigneur a dit, je lis Actes 26, 15 à 19. Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, témoin des choses que tu as vues, celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et je t'envoie vers eux, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. » Dieu dit à chaque personne ici, « Je vous ai sorti des ténèbres, mais maintenant je vous envoie vers eux. Je t'envoie vers ta famille, je t'envoie vers tes compagnons de travail, je t'envoie vers des rétrogrades, je t'envoie vers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui se sont éloignés de lui, afin qu'à travers toi, tu vas parler, tu vas partager ta foi, tu vas prier, tu vas combattre, tu vas aimer, tu vas oser, tu vas traverser l'orgueil et la peur et la gêne, et tu vas y aller, et tu vas ouvrir ta bouche, et tu vas prier, je vais avoir préparé le terrain dans leur cœur, puis je vais avoir préparé une œuvre en eux, afin qu'eux puissent être, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Il dit en essence, ce que le Seigneur me dit, c'est que moi, je t'ai sorti des ténèbres, mais je te renvoie vers des gens afin qu'ils puissent goûter le même héritage que toi t'as goûté. Et là, l'apôtre Paul dit quelque chose que moi, je veux dire ce matin. Je termine le message avec ça. L'apôtre Paul dit quelque chose que moi, je veux dire ce matin. Moi, je veux dire ça devant Dieu en ce mois, c'est 7 janvier 2007. Il dit, « Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » C'était la vision du cœur de Dieu, c'était le désir de Dieu, c'était le rêve de Dieu. Et moi, je n'ai pas piétiné, je n'ai pas négligé, je n'ai pas méprisé le rêve de Dieu. Je me suis abandonné, je me suis donné au rêve de Dieu. Dans quelques années, je termine avec ceci, pendant que Dan va commencer doucement. Dans quelques années, au début de l'Église Nouvelle Vie, j'étais en train de faire une tâche administrative un matin, puis c'est tâche qui était importante à être faite. On avait peut-être quelques centaines de personnes à l'église à ce moment-là. Et c'était le début d'une nouvelle année, et puis j'avais la liste, j'avais fait mon temps de prière, tout ça. Puis là, j'étais au bureau, j'étais en train de faire des papiers, puis mon assistante ou la secrétaire avait amené la liste. Puis on avait la liste de tous ceux qui s'étaient joints à l'église, des membres, des nouveaux membres de l'église. C'était réjouissant parce qu'il y avait plusieurs pages de gens qui avaient accepté le Seigneur, qui s'étaient joints à l'église. Puis il y avait aussi la liste de ceux que nous devions enlever, les noms qu'on devait enlever de notre liste parce qu'ils avaient quitté. Il y a des gens qui avaient déménagé, il y a des gens qui s'étaient joints à une autre église. J'aimerais vous dire de manière très importante, c'est important que vous compreniez, que pour nous ici à l'Église Nouvelle Vie, lorsque quelqu'un quitte Nouvelle Vie parce qu'il se sent dirigé à se joindre à une autre église, on ne les a pas perdus. Parce que nous sommes dans le même royaume, nous sommes dans la même équipe. Lorsque quelqu'un quitte l'Église Nouvelle Vie puis va joindre une église parce que Dieu les a conduits, c'est nos amis, c'est nos frères, et on n'a pas perdu personne, le royaume de Dieu les a gagnés. Est-ce que vous pouvez dire « Amen » C'est important parce que des gens qui se sont fait mettre toutes sortes de condamnations parce que dans certaines mentalités, si tu quittes notre église, ben t'es plus dans le royaume, ouais, tu nous as trahis, etc., etc. Grand, moi, lorsque quelqu'un quitte Nouvelle Vie parce que Dieu les appelle ailleurs, je suis simplement content qu'ils continuent avec Dieu, puis ils avancent, puis ils vont aller servir Dieu, et on est tous dans la même équipe, et lorsque eux gagnent, moi, je gagne avec eux. Dites un vrai amen. Mais là, il y avait une liste de personnes aussi, il faut être honnête. Je vais être direct avec vous. Il y avait une liste de personnes qui avaient quitté parce qu'ils avaient quitté les choses de Dieu. Des gens qui avaient des appels sur leur vie, des gens qui avaient eu des beaux départs, des gens qui avaient vécu des choses, puis ils s'éloignaient de Dieu, il fallait les enlever de la liste. Ils avaient demandé, c'était parti. Et je faisais une tâche administrative. Je ne me condamne pas, c'est un travail qu'il fallait qu'il soit fait. Mais Dieu m'a profondément corrigé. Parce que j'étais en train de faire la liste, puis il y avait toute la liste, puis je traversais la liste, il fallait que je vérifie les noms. Oui, parti, OK. Puis maintenant, voici la liste de tous ceux qui vont se joindre, qui se sont joints, puis là, il y avait plusieurs pages. D'une manière très profonde, avec douceur, mais avec, je l'ai senti avec beaucoup, beaucoup d'émotion et beaucoup de correction dans mon esprit. C'est comme si le Seigneur me disait, regarde à l'autre liste encore une fois. Regarde à la liste des noms de ceux qui sont partis. Comme si Dieu me disait, moi, je ne laisse pas partir aussi vite que toi. Regarde chaque nom encore une fois. Puis j'ai vécu une expérience qui a duré longtemps. Alors que j'ai commencé à regarder chaque nom, il y en a que je ne connaissais pas beaucoup, mais il y en a que je connaissais vraiment beaucoup. Commencer à regarder à qu'est-ce qu'ils avaient causé de partir, puis sans se condamner. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils reviennent? Puis est-ce que je peux, Seigneur, est-ce que je peux te demander de les toucher puis de les ramener, Seigneur? J'ai toujours gardé cette expérience dans mon cœur, qu'à début de chaque année, fin de chaque année, au-delà de la tâche administrative, il y a des gens qui ont quitté les choses de Dieu que vous connaissez, puis il y a juste vous qui leur parlez encore. Il y a juste vous qui pouvez les appeler. Il y a juste vous qui pouvez les contacter. Il y a juste vous qui avez encore un accès à eux. Et en 2007, cette semaine, un matin, je lisais ce portrait des Évangiles qui est devenu un portrait prophétique pour moi, avec lequel je termine ce matin. Dans l'Évangile de Marc, il y a cette scène hallucinante où Jésus entre dans le temple et se met à enseigner, comme on va faire à chaque semaine de l'année. Alors qu'il est dans le temple et qu'il enseigne, il y a une femme qui entre. Et la Bible nous dit qu'elle est pliée, elle est courbée, elle est paralysée, elle souffre et elle est incapable de se relever. Courbée et incapable de se relever. Alors que je disais ces mots, je pensais aux centaines et centaines de personnes que nous connaissons qui sont ainsi. Ils sont courbés par leur passé, par leur abus, par leur captivité, par leur péché, par leur douleur. Il n'y a personne qui peut les libérer, si ce n'est le Fils de Dieu. Et alors que la réunion prend place et Jésus est en train d'enseigner, faire quelque chose, que couper le souffle des gens qui étaient là, il interrompt son message, il la voit et lui dit, « Femme, viens vers moi. » Et le verset va apparaître à l'écran. Et alors qu'elle s'approche, la Bible nous dit que Jésus arrête tout et il la touche. Il lui dit, « Femme, relève-toi. » Il parle d'un esprit du mal qui la tenait depuis 13 ans. Et ce que humainement n'aurait jamais pu faire et ce qu'aucun être humain pouvait faire pour elle, Jésus le fait. Elle se relève. Et la Bible nous dit qu'elle se met à glorifier Dieu et que la foule reprend espoir et est encouragée par ce qui prend place. Je veux mettre cette vision devant vous en 2007, que parmi tous les exploits qu'on peut faire à l'Église Nouvelle Vie, qu'une des choses que nous allons parler, nous allons prier, je veux faire une alliance avec vous. Vous allez témoigner, vous allez parler, vous allez prier, vous allez être amis avec des gens, vous allez oser leur reparler à nouveau, des gens que vous avez témoigné plusieurs fois, puis maintenant vous avez arrêté. Des rétrogrades que vous fréquentez et que maintenant vous parlez de hockey avec eux, vous parlez de n'importe quoi, puis vous acceptez l'état des choses. Mais Dieu va vous amener à une douceur, à une patience, à une stratégie, va vous amener à une compassion, vous allez oser leur parler des choses de Dieu à nouveau. Et que pendant l'année 2007, j'ai passé plusieurs minutes en prière là-dessus, cette scène était tellement magnifique. Je disais, Seigneur, à chaque dimanche en 2007, que des centaines et milliers de personnes qui en ce moment sont perdues et loin de toi puissent être attirées par des croyants qui leur parlent, qui les aiment, qui leur témoignent et les amènent à l'Église. Et que parmi tout ce qui peut arriver en 2007, dans l'Église Nouvelle Vie, le plus grand de tous les miracles, le rêve de Dieu s'accomplisse à chaque dimanche, que des gens entrent captifs, des gens entrent courbés, des gens entrent brisés, mais la main de Jésus les touche et sous nos yeux, il les relève, sous nos yeux, il les ressuscite et sous nos yeux, il gagne ce qui était perdu et son rêve s'accomplit. Est-ce que vous aimez cette vision pour l'année 2007, tout le monde ensemble? Est-ce qu'on peut l'applaudir, cette vision, ensemble? Alléluia! Thank you. Levons-nous ensemble. J'aimerais que vous fassiez ceci ce matin. J'aimerais que vous penchiez la tête pendant un instant. Je ne ferai pas d'appel ici à l'avant. Mais nous allons aller dans un moment de prière extrêmement important. Je vais vous demander, si vous le désirez, si vous êtes prêts. Et à partir des prochaines semaines, on va parler du rêve de Dieu pour vous. Toute captivité, toutes choses qui peuvent vous détruire et toutes choses qui peuvent vous retenir, on va les adresser, on va les confronter et Dieu va vous donner de grandes victoires. Mais ce matin, c'est son rêve à lui que j'aimerais vous offrir. De dire, Seigneur, en 2007, donne-moi des noms de personnes. Vous savez, j'aimerais vous demander, il n'y a pas de réunion ce soir. Prenez quelques minutes entre maintenant et demain matin avant de repartir au boulot. Avant, si vous voulez le prendre à cœur, ce n'est pas une loi. Si vous voulez le prendre à cœur. Si à demain matin, j'aimerais que vous preniez le bulletin que vous avez eu dans les mains, que la date du 7 janvier dessus et qu'à l'endos, vous puissiez prendre quelques minutes et prier et dire, Seigneur, tu vas me donner des noms de personnes. Saint-Esprit, que toi, tu mets sur mon cœur des personnes que je connais, des personnes qui se sont éloignées, des personnes de ma famille que j'avais presque perdu le courage parce que ça fait plusieurs années que j'essayais de leur témoigner et puis ça, il y avait un mur qui s'était levé. Mais Seigneur, je veux accomplir ton rêve. Puis je vais leur parler. Je vais prier pour eux. Je vais les inviter. Puis je vais communiquer avec eux. Puis je vais ouvrir des conversations. Et je vais partager mon cœur. Puis je vais les aider. Puis je vais les aimer. Et prophétiquement, par la foi, avec les yeux de la foi, je les vois venir entrer à l'Église avec nous. Et tu vas, Seigneur, étendre ta main et les toucher. Et ceux qui sont retenus, ceux qui sont ployés, ceux qui sont courbés,
vont être relevés par la main de Dieu.
Et moi, je veux prendre ma part dans le rêve de Dieu. Pendant quelques instants, une sorte de prière que l'on peut faire dans la maison de Dieu, mais j'aimerais vous demander de faire ceci pendant que les musiciens jouent doucement. J'aimerais vous commencer à dire à voix haute, à murmurer à voix haute, le nom de personne que Dieu met sur votre cœur. Je crois que le Saint-Esprit le fait déjà. Peut-être c'est votre fils, c'est votre fille, c'est votre père, votre mère, votre frère, votre soeur. Des gens qui avaient un appel sur leur vie, qui ont connu Dieu et que l'amertume, la déception est venue. Et en ce moment, ils sont loin de Dieu. Mais le Saint-Esprit vous donne leur nom en ce moment parce qu'il veut vous appeler vous. Il veut vous utiliser vous. Il veut se servir de vous pour aller les rejoindre, les chercher. Alors pendant quelques minutes, est-ce qu'on peut voir cette salle se remplir de noms qui montent vers le ciel? Le premier dimanche de l'année, nos yeux ne sont pas sur nous-mêmes, ne sont pas sur nos besoins. Le premier dimanche de l'année, notre voix murmure le nom de quelqu'un devant Dieu. Partons à travers ce lieu, ouvrez la bouche et dire, Seigneur, voici. Me voici à tes pieds, Seigneur, et je prie. Je prie pour Michel, Seigneur. Je prie pour Raymond, je prie pour Denis, je prie pour Steve. Je prie pour Harold, je prie pour Lynn. Je prie, Seigneur, pour nos familles. Je prie, Seigneur, pour Michael, je prie pour Nicolas, je prie pour Huguette, je prie pour Raymond, je prie, dites le nom. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre neveu, votre nièce, votre fils, votre fille, votre ami. Je prie pour lui, Seigneur, je prie pour cet homme. Je prie pour lui qui était là avec moi dans la maison, qui a un appel sur sa vie, il avait des talents pour toi, il avait tellement de passion pour toi, puis les choses ont pris place, qui l'ont fait s'éloigner, qui l'ont fait se refroidir, qui l'ont fait qu'en ce moment, il est presque un ennemi de Dieu là, extérieurement. Mais toi, Seigneur, je prie, je m'engage en 2007 à être un outil entre tes mains pour accomplir ton rêve dans la vie de cette personne. Je vais la rappeler, je vais lui parler, je vais l'inviter, je vais être son ami, je vais l'écouter. Seigneur, nous voici à tes pieds. Et nous te donnons tous nos rêves. Oui, on a des rêves, mais ce matin, c'est ton rêve à toi qui compte. Moi, mon désir, Seigneur. Moi, mon désir de te servir. Et ce matin, je te donne tous mes rêves. Afin d'accomplir ton rêve, Seigneur. Sers-toi de moi pour accomplir ton rêve. Me voici. Me voici à tes pieds. Pour te demander.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.